Parfait, merci. Donc, Judith, nous revenons vers vous et j'imagine que vous pourriez nous parler, entre autres, du rôle des écoles, entre autres choses, mais c'est à vous, évidemment, de nous d'enrichir cette conversation au sujet des possibilités et des modèles.
Oui, merci Louisa. D'après les recherches qui ont été faites en Nouvelle-Écosse, ce qui semble vraiment gagnant, ce serait cette médiation interculturelle qu'on pourrait mettre de façon institutionnalisée dans les écoles. Ça commence à se faire, par exemple avec le CSAP, Conseil scolaire acadien provincial. Depuis quelques années, ils embauchent beaucoup plus d'agents de développement scolaire et communautaire venant de l'immigration. Donc, c'est vraiment de faire un pont entre la communauté et l'école. Et puis, les stratégies en milieu minoritaire, c'est vraiment ça, créer des liens entre la famille, l'école et le milieu communautaire. Et puis, c'est cette volonté qu'ont les institutions scolaires. D'après mon étude que j'ai faite sur les étudiants internationaux à l'Université Sainte-Anne, il semblerait que il serait intéressant de mettre en place différents types de mentorat ou de parrainage pour aider les immigrants à mieux connaître le milieu. Et d'après mon expérience personnelle, je trouverais que ce serait vraiment intéressant qu'il y ait comme un roulement de ces mentors et de ces parrains, pour éviter que ce soit toujours les mêmes, ce qu'on vient de dire, c'est toujours les mêmes qui font du bénévolat ou autre, et puis pour élargir la connaissance des groupes. Ce que j'ai pu observer, c'est que souvent, c'est les mêmes groupes qui restent entre eux, et donc, on ne va pas vers cette déconstruction et puis vers la connaissance des autres, parce que c'est comme ça, généralement, on est beaucoup plus accoutumé à vivre dans certains cercles et on ne va pas aller nécessairement voir ce qui se passe ailleurs. Mettre en place des modèles flexibles parce que avec l'immigration, étant donné que les immigrants viennent de pays diversifiés, on ne peut pas avoir un modèle strict. Et puis ça permettrait d'éviter les stéréotypes parce qu'on tombe très vite dans les stéréotypes. Donc des modèles flexibles, ça serait vraiment très intéressant et surtout on est de plus en plus, qu'on le veuille ou non, dans des sociétés individualistes. Donc, encourager et valoriser l'entraide sociale, pour moi, c'est comme une des solutions. Et puis, je reprendrai Émile Durkheim qui avait parlé d'une solidarité organique. Je pense qu'on devrait beaucoup plus aller vers une solidarité organique qui serait fondée sur la diversité. Et puis, ce serait vraiment la nouvelle norme à prendre en compte, puisqu'on est tous différents. Et puis, moi, ce que j'aimerais aussi, c'est éviter cet effet de ghettoisation où les immigrants restent entre eux et puis les autres cultures entre elles. Parce que là, on rejoint encore ce qu'a mentionné Ibrahima, cette notion de minorité dans une minorité. Et ce n'est pas le but. Si on veut créer une cohésion et puis des liens sociaux, on devrait vraiment aller sur l'ouverture, des modèles flexibles et l'entraide. Pour moi, c'est vraiment des mots-clés.
Merci, c'est très enrichissant. Et puis donc, Kimberly, on vous a mis en dernier parce que sûrement vous avez vos propres idées. Donc, en plus de ce qui a été suggéré par les trois panélistes, vous de la FCFA, qu'envisagez-vous par rapport aux possibilités, aux modèles?
Merci, Louise. Alors, la cohésion communautaire doit être l'affaire de tous et le fruit d'un travail collaboratif. J'ai mentionné plus tôt l'enjeu de ressources financières, mais la cohésion communautaire nécessite également un engagement individuel, un engagement personnel. Ce projet de société requiert de chacun de l'empathie et une certaine tolérance à la vulnérabilité. Par exemple, l'ouverture à la diversité est un facteur important de cohésion communautaire car elle facilite justement la participation sociale. Mais cette ouverture à la diversité peut causer un sentiment de vulnérabilité. Et à mon avis, les communautés francophones ont besoin d'un modèle social qui reconnaît et aborde cette vulnérabilité afin de pouvoir y remédier. Un modèle basé à la fois sur l'acquisition de compétences interculturelles, mais également sur des principes d'humilité culturelle. Cette humilité requiert de l'introspection et d'être en mode co-apprentissage. Donc, concrètement, je peux vous parler de l'initiative des communautés francophones accueillantes, qui est un exemple de collaboration permettant de surpasser la segmentation des financements et de rassembler les membres de la communauté et les membres plus récents issus de l'immigration. Donc, cette initiative compte 14 communautés francophones de profils variés à travers le pays. Et ce projet vise à tisser des liens durables entre les nouveaux arrivants et les membres de la communauté. Elle travaille pour façonner des communautés francophones unies dans leur diversité, avec justement l'approche par et pour. Également, une attention particulière, puis Suzanne en a déjà parlé, une attention particulière doit être accordée aux espaces physiques, parce qu'elles permettent justement leur et l'organisation d'événements fédérateurs et par exemple la Semaine nationale de l'immigration francophone rapproche les membres de la communauté. Donc cet événement est coordonné par la FCFA au niveau national et au niveau provincial et territorial par les réseaux en immigration francophone. Puis, chaque année, une centaine d'activités ont lieu partout au pays, donc que ce soit des soirées culturelles, des ateliers de cuisine, vraiment des événements qui permettent aux membres de la communauté d'être ensemble pour co-créer cette cohésion communautaire.
Excellent, merci. Vous vous maintenez vraiment bien dans vos temps. Alors, ça nous laissera plus d'opportunités d'échanger à la fin du panel. Donc, la troisième question pour clore cette table ronde, et je pense que ça commence à émerger à travers vos interventions, est la question des différences historiques et géographiques des communautés francophones d'un océan à l'autre, qui pourrait requérir en fait des modèles adaptés au contexte spécifique dans lesquels vous vous trouvez. Par exemple, Judith, vous avez parlé en fait du phénomène assez récent de l'immigration. Nous allons procéder donc d'est en ouest. Nous commençons avec Judith.
Merci beaucoup, Luisa. Je trouve que je suis choyée cet après-midi parce qu'on a des transitions toutes faites pour moi, donc grâce à Kimberly. Donc, je voulais mentionner aussi, donc, la région, je vis en région rurale et effectivement, je suis dans une communauté francophone accueillante et on peut voir que c'est tout récent et on a ces défis que je vais vous mentionner. Donc, étant donné que c'est un milieu rural, il n'y a pas assez on n'a pas facilité, je vais dire, le déplacement. Il n'y a pas de ligne, par exemple, d'autobus pour être vraiment pratico-pratique. Les immigrants ne savent pas nécessairement conduire. Ils n'ont pas nécessairement les moyens de tout de suite de s'acheter une voiture parce qu'il y a le crédit bancaire, etc. Donc, ça reste un frein à l'intégration. En plus de la langue, créer vraiment des structures pérennes qui seraient aussi bénéfiques aux personnes du milieu, parce que nous sommes dans une communauté où la population est vieillissante, qu'on le veuille ou pas, et ça pourrait vraiment être utilisé par la communauté de manière vraiment beaucoup plus large. Nous n'avons pas suffisamment des centres de rencontres, donc ça aussi, c'est à créer pour avoir vraiment diverses activités diversifiées pour la rencontre de cette diversité et ces différentes communautés. Par exemple, moi, je sais qu'il y a différentes communautés dans la région de Clare, mais je ne les vois pas souvent parce qu'il n'y a pas ces activités de rencontre de manière régulière. Ce que je préconiserais aussi, donc, c'est cette volonté vraiment d'intégrer les immigrants, mais aussi d'aller vers les immigrants, ne juste pas attendre que les immigrants viennent parce qu'ils sont déjà dans un terrain inconnu. Donc, cette structure d'accueil, d'aller vers l'autre, pourrait être vraiment très bénéfique en milieu minoritaire et surtout au niveau rural. Les différences des us et coutumes, les variations langagières, ça pourrait être des difficultés. Quand moi, je suis arrivée ici, on était étonnés que je comprenne la variété, mais c'est que venant d'un milieu où on utilise le créole, donc, et puis ayant vécu dans la variation linguistique, pour moi, ce n'était absolument pas un défi. Mais pour d'autres immigrants, ça pourrait être un défi, parce que juste, on n'est pas habitué à entendre les différentes langues en contact. Donc, la même chose pour au niveau éducatif, c'est vraiment ça, la connaissance du milieu, des différents profils d'immigrants, vraiment, c'est vraiment un des défis, parce que la francophonie a différents visages et on n'est pas nécessairement habitué aux différents visages de la francophonie. Donc, ça aussi, c'est récent. Donc, il devrait y avoir plus d'événements pour promouvoir ces différences identitaires visibles pour que l'accueil soit plus efficace.
Un grand merci. Donc, nous passons à l'ouest, à Kimberly. C'est à vous.
Merci, Louisa. Alors, les communautés francophones ont une histoire pleine de résistance et de résilience. Et ces concepts ne sont pas nouveaux pour les personnes issues de l'immigration. On peut penser, par exemple, à l'histoire d'émancipation des Haïtiens. Le problème, c'est qu'on ne se connaît pas assez. L'histoire des différents pays de la francophonie mondiale n'est pas assez mise à l'avant et les personnes issues de l'immigration ne sont pas au courant de l'histoire des communautés francophones et des communautés autochtones d'ailleurs. Pourtant, on a tout à gagner à se connaître. Alors, je crois que nous devons entamer une réflexion sur la manière qu'on fait communauté. Donc, comment est-ce qu'on peut délibérément participer à ce projet de société qu'est la communauté francophone. Donc, au-delà des différences historiques et géographiques, la cohésion communautaire doit être une priorité. Donc, à mon avis, qu'il y ait peu d'immigrants ou énormément d'immigrants dans sa communauté ou bien que l'histoire d'immigration soit plus récente ou plus ancienne, la cohésion communautaire va bénéficier à tous et toutes. Donc, en ce qui concerne le comment, c'est-à-dire les projets, les initiatives, les lieux physiques qui seront mis de l'avant pour faire avancer la question de cohésion communautaire, mais il faut que la communauté comme telle soit au centre de l'action. C'est-à-dire, concrètement, les membres de la communauté doivent co-apprendre pour être capable de co-créer cette cohésion communautaire. Donc, je ne crois pas qu'il y ait une recette, un format, une checklist pour obtenir la cohésion communautaire. Elle doit être co-créée par ceux qui sont justement dans la communauté. Merci.
Merci pour vos propos inspirants. Donc, Ibrahima, nous passons à vous du côté du Manitoba.
Ok, merci beaucoup. Ben, je dois dire que le Manitoba, peut-être, je ne peux pas dire que c'est une exception, dans l'échiquier canadien, mais sachez que le Manitoba a été fondé, le Manitoba est rentré dans la Confédération grâce à un francophone du nom de Luriel, qui est le père fondateur du Manitoba. Donc, le français avait droit de citer au Manitoba quand le Manitoba est rentré dans la Confédération. Donc, on a hérité de cette tradition jusqu'à ce qu'il y ait eu des éléments de suppression. Vous avez en Ontario la loi 17, ici celle on a eu le Official Language Act qui a supprimé la francophonie, en tout cas l'enseignement du français. Ce qui fait que ça a été une longue lutte, mais comme vous avez pu le voir, il y a eu des éléments de réparation qui commencent à voir le jour. Maintenant, le Manitoba, avant on avait par exemple une politique sur la langue, les langues officielles, maintenant on a une loi qui définit même qui est francophone. Alors, donc, il a fait une grande ouverture à ce niveau-là. Donc, c'est un grand changement, je pense que les conditions sont là. Mais il y a une chose aussi que je dois signaler ici, c'est que Nous qui venons de l'extérieur, c'est de comprendre le système canadien. Il est très compliqué. Vous avez un gouvernement fédéral qui donne de l'argent à des provinces et ces provinces-là font ce qu'ils veulent. Autrement dit, en termes de financement, par exemple, pour développer des institutions, des projets et autres, eh bien, ce qui se passe, c'est que les financements, il n'y a pas de clause linguistique associée à ces financements-là. Ce qui fait qu'il y a des institutions qui sont en train de pédiculter. Et on ne peut pas dire, on ne peut pas avoir des communautés immigrantes qui s'épanouissent si la communauté d'accueil est en train de péricliter. Alors je pense qu'il y a tout un lien entre ces différents niveaux de gouvernance, je pense qu'ils sont très, très, très importants. Nous espérons en tout cas qu'avec la modernisation de la loi sur les langues officielles, que des choses vont être clarifiées. L'autre élément que je voulais amener ici, c'est que c'est le fait qu'on puisse voir que les communautés francophones sont extrêmement fragiles d'un bout à l'autre du pays. Hein. On dit que le Nouveau-Brunswick est la seule province bilingue, mais on a vu aussi ce qui se passe là-bas. Et ce qui m'a frappé, vraiment, c'est de voir comment est-ce qu'avec des changements de gouvernement, le sort des francophones peut basculer comme dans un abîme là. Parce que on ne pèse pas lourd sur l'échiquier national. C'est ça aussi notre problème. Et donc, s'occuper des gens, des électeurs qui apportent des voix est beaucoup plus important en matière politique que les gens qui ne pèsent pas lourd, si vous voulez, sur l'échiquier électoral. Et on l'a vu d'ailleurs durant les dernières élections que tout le monde se plaignait qu'on ne parlait pas des francophones hors Québec. Alors, donc, pour moi, c'est très important que partout où on a eu des accords, des partenariats entre le fédéral, les provinces et les municipales, les choses ont avancé dans la bonne direction. C'est comme ça qu'on a pu, au Manitoba, maintenir les acquis qu'on avait eus. Et maintenant, bon, on a partout dans la province, nous avons dans les réseaux scolaires, on a on a créé une école à Brandon. Brandon, là, c'était une des villes les plus anti-françaises, si vous voulez, mais il y a des écoles francophones qui s'ouvrent là-bas. Donc, cela veut dire qu'il y a un vent de changement et je pense que c'est dans l'intérêt de toute la communauté. Il faut arriver à un certain moment de faire en sorte que le français soit normalisé, que le français soit une langue qui est partagée par l'ensemble de la population. Et de plus en plus, encourager aussi l'immersion. Il ne faut pas oublier ce facteur-là. Le français, je me souviens que quelqu'un m'avait dit ça, le français est trop important pour le Canada pour être confié juste à des francophones. Il faut aller chercher des alliés et ça, c'est un autre élément important. Ce n'est pas juste l'immigration, c'est aussi tous les autres, des fameux couples exogames qu'on trouve à plus de 60% dans nos communautés. Ils ont un parent qui est francophone. Pourquoi donc ne pas bâtir sur cette assise-là et pour pouvoir construire l'avenir? Parce que pour moi, c'est très, très, très important. Et évidemment, je pense aussi il y a une dimension, je pense qu'il y a des géographes dans la salle, de parler de toute la question de la répartition de l'immigration. Tout le monde ne peut pas être urbain. Il y a tout le volet rural, je pense, de plus en plus maintenant, il y a des municipalités qui vont chercher des immigrants. Et ça, c'est très nouveau pour les francophones. Du côté anglophone, vous allez dans d'autres régions du Manitoba, c'est plein d'immigrants. Nous, on s'est toujours deux pieds sur nous-mêmes, alors que les autres sont en train d'évoluer. Ça aussi, c'est une dimension, je pense, qui est très, très, très importante, de répartir l'immigration dans différentes régions. Évidemment, il faut que les gens aient des moyens pour pouvoir survivre. Et là, je finis en parlant aussi de toute la question des universités. Je ne parle pas seulement du Manitoba, mais aussi de ce qui se passe chez nos voisins. C'est un élément très important quand on veut former des gens de demain. Voilà. Donc, il faut beaucoup penser à ça et adapter donc à la réalité locale. Mais nos interlocuteurs directs, souvent, ce sont nos provinces. Et en cas de changement de gouvernement, on regarde dans quel sens le vent va tourner. Et ça nous met souvent dans des positions où on ne peut pas construire dans la durée. Alors, on est toujours en train d'improviser en fonction du prochain gouvernement pour voir qu'est-ce qu'il va faire. Alors, ça aussi, ça insécurise, hein, ça ruine la cohésion sociale. Et quand il y a moins de ressources, cela veut dire que la compétition est féroce. Et à ce moment-là, c'est tous les autres éléments de clivage qui vont ressortir. On va désigner des boucs émissaires.
Merci. Alors,
voilà, merci.
Merci beaucoup de toucher à tous ces points importants. Et je pense que ça ouvre vraiment la porte à Suzanne pour clore. au sujet des différences à travers le pays.
Oui, merci. Donc, c'est absolument essentiel que ces modèles soient adaptés à leur contexte. Donc, les différences historiques et géographiques sont très importantes. Donc, dans les entrevues avec les informateurs clés qu'on a menées, ça le fait ressortir des différentes considérations contextuelles. Donc, il y en a plusieurs qui ont parlé des difficultés à rejoindre et à attirer les membres de la communauté pour les engager de façon active, par exemple, dû au manque de visibilité. Donc, c'est non seulement qu'en arrivant dans une ville, on ne sait pas nécessairement où trouver cette communauté francophone, mais pour les organismes aussi, d'être capable d'identifier ceux qui sont nouvellement arrivés à la ville, c'est pas évident. Souvent, les plus grands organismes anglophones qui les reçoivent ne les envoient pas vers les organismes francophones comme ils devraient le faire. Donc, cette question d'identifier les francophones d'un côté à l'autre devient difficile. Et donc, ça devient aussi difficile à fédérer les membres de la communauté par manque de financement ou parce que la communauté fait face à d'autres problèmes ou problématiques comme, par exemple, une crise économique. Peut plus nécessairement prioriser des projets de cohésion en tant que tels. Donc, les contextes provinciaux sont variés à plusieurs niveaux, économiques, politiques, etc. Donc, par exemple, il n'y a aucune politique de service en français dans la province de la Colombie-Britannique. Donc, moi, je suis franco-ontarienne, je suis arrivée à Vancouver seulement en 2017 et ce genre de différence peut être vraiment choquante. Comme quand je demandais où enregistrer mon enfant à l'école, mon employeur avait aucune idée que le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique existait. Donc, ils m'ont référé tout de suite au programme d'immersion. Ibrahima a mentionné que c'est important, mais comme ayant droit, le fait qu'on ne connaissait même pas l'existence de ce conseil scolaire est vraiment choquant. Donc, les communautés que nous avons étudiées avaient des profils démographiques très différents. Donc, par exemple, à Vancouver, la population francophone ne représente que 1% de la population totale, tandis qu'elle représente 35% de la population à Moncton. De plus, la proportion d'immigrants au sein des populations francophones varie largement à travers le pays. Donc, encore par exemple, les immigrants représentent environ 26% de la population francophone de la Colombie-Britannique. Donc, on a vraiment une richesse démographique ici, mais les immigrants représentent seulement environ 2% de la population francophone du Nouveau-Brunswick. Donc, il y a vraiment des grandes différences démographiques, politiques, économiques à travers le pays. Donc, les modèles ont peut-être, c'est possible qu'il y ait des caractéristiques, comme Judith l'a mentionné, qui peuvent servir à informer à ces projets de société, mais on doit vraiment les adapter au contexte local, provincial, etc. Donc, on doit vraiment se connaître davantage au sein de ces contextes-là. Comme l'a mentionné Kimberly, par exemple, les gens qui ont participé dans nos groupes de discussion ont mentionné qu'il est important d'enseigner non seulement l'histoire de la francophonie canadienne, mais aussi la francophonie internationale ou globale. Donc, je ne sais pas s'il nous reste du temps, mais j'avais quelques éléments qui ont ressorti comme recommandations lors de nos travaux que je pourrais partager, mais...
Oui, tu peux y aller.
Donc, les gens ont mentionné l'importance de favoriser l'accueil et le soutien communautaire, de pousser encore davantage l'ouverture et l'inclusion, encourager l'intégration économique, comme a été mentionné à plusieurs reprises lors de notre discussion aujourd'hui, ce qui nécessite aussi davantage la reconnaissance des diplômes, favoriser le réseautage dans la communauté francophone, assurer une meilleure représentation dans les organismes et aussi dans nos discours et nos documents, améliorer la diffusion et de l'information et l'accès à cette information, promouvoir la visibilité des communautés et ainsi de suite. Donc, il y avait plusieurs de ces éléments clés-là qui sont assez généraux, mais que si on essaie de les aborder, on doit le faire avec une connaissance vraiment des contextes sociaux, géographiques, historiques de nos propres communautés. Donc, c'est tout ce que j'aurais à ajouter ce matin, mais j'ai hâte d'en discuter davantage avec vous.
Merci beaucoup. Merci à vous quatre pour partager des idées aussi enrichissantes. Nous allons ouvrir maintenant aux questions et échanges avec notre nombreux public. Donc, je voulais voir si parmi nos quatre experts, si vous aviez des questions l'un pour l'autre. Je pense que vous complémentiez et partagiez plusieurs des points de vue. Donc, dans ce cas, on peut ouvrir au public. Vous pouvez soit lever la main avec la fonction « lever la main » si elle fonctionne, ou directement, en fait, ouvrir votre micro et poser vos questions. Bon, Lucie, sinon j'ai moi-même des questions, mais vas-y Lucie, tu peux entamer le bal.
J'avais brisé la glace, peut-être que ça va inciter les gens à prendre la parole aussi. J'ai deux questions à en faire pour nos panélistes. La première est pour tout le monde et je me demandais, est-ce que les immigrants francophones vivent des expériences différentes en fonction de leur pays d'origine? Est-ce que l'origine ou la couleur de la peau ou l'accent, et les gens qui ont un accent français, est-ce que c'est plutôt qu'un accent, je ne sais pas, moi j'ai un accent franco-ontarien et très souvent je me fais regarder en France un peu différemment. Donc, est-ce qu'il y a des facteurs comme l'origine, l'appartenance culturelle, l'accent qui influent sur l'expérience d'immigration?
Donc, qui aimerait répondre? Ibrahima, oui.
Oui, oui en ce qui concerne l'origine, je ne pense pas que ce soit quelque chose de très, très, important autre que l'expérience vécue avant de venir. Je pense que c'est ça qui est l'élément le plus important parce que actuellement on ne fait pas la différence entre un immigré et un réfugié, mais des gens qui ont vécu des expériences traumatisantes qui arrivent, ils sont encore beaucoup plus, si vous voulez, traumatisés par le déracinement et avant l'implantation. Donc ça, c'est un élément. Et il n'y a pas de règle générale qui dit que quelqu'un qui vient d'un pays particulier va avoir plus de chances de réussir que quelqu'un d'autre. Mais l'expérience vécue avant de venir est très, très, très importante, ça c'est sûr.
Un seul point que moi j'aimerais ajouter, c'est que ce qu'on a vu à Vancouver, c'est que c'est important aussi de regarder les intersections identitaires, parce qu'il y avait des différences en lien avec les expériences de racisation, par exemple. Donc, il y a plusieurs immigrants qui viennent de la France, de la Belgique, de la Suisse, que quand eux circulent dans le Grand Vancouver, ils ne sont pas nécessairement identifiés comme étant d'origine immigrante. Donc, ils ont quand même le vécu de connaître une nouvelle communauté, de s'installer, de s'intégrer et tout, sauf qu'ils ne subissent pas ces processus de racisme des niveaux interpersonnels jusqu'au niveau systémique. Donc ça peut faire une différence selon le pays d'origine.
Kimberly ou Judith, je ne sais pas si c'est une réponse que vous voulez.
Oui, oui, je voulais rajouter une expérience personnelle de mes observations. Donc moi, ce que j'ai pu observer dans ma région, c'était vraiment plus un étonnement de voir une personne de couleur parler en français, parce qu'on s'attend à ce qu'on parle en anglais. Donc, c'est toujours une réaction par rapport à cela, puisqu'il y a, comme j'ai dit, il y a une méconnaissance de la francophonie de manière générale, et puis que la francophonie a différentes couleurs et est diversifiée. Donc, c'est toujours mais c'est un étonnement positif, parce qu'ils ne s'attendent pas. Et puis là, c'est comme, oh, mais tu parles comme nous, à peu près. Donc, c'est vraiment, moi, j'ai trouvé ça des belles surprises de la part du pays d'accueil.
Merci. Lucie, veux-tu poser ta deuxième question? Et puis, je veux juste vous laisser savoir, Gratien, vous êtes le prochain après Lucie. Et ensuite, je vois des questions dans le chat. Donc, après l'intervention de Gratien, je passerai aux questions qui sont dans la ligne d'attente. Donc, Lucie, tu avais dit que tu avais une deuxième question.
Oui, c'est une question par rapport à ce que Judith disait tantôt, et peut-être que ça s'applique dans les autres régions aussi, mais est-ce qu'il y a des immigrants qui viennent de pays qui ne sont ni francophones ni anglophones, qui choisissent le français comme langue, même s'ils sont en contexte minoritaire? Je sais que ça arrive souvent en Ontario, que des gens viennent de pays non francophones, non anglophones, et ils vont choisir le français. C'est le cas de mes voisins qui viennent du Costa Rica. Mais est-ce que c'est fréquent aussi en Nouvelle-Écosse et dans d'autres régions?
Juste là aussi, par expérience, je ne pourrais pas dire au niveau de la fréquence, mais j'ai pu observer effectivement qu'il y avait des familles qui ne parlaient pas le français ou qui ne parlent pas le français et qui avaient un côté francophile et puis qui ont inscrit leurs enfants dans des écoles voilà, en français. Oui.
Pour ma part, je pourrais intervenir. Oui, il y a des cas. Certains proviennent de pays qui sont francophiles, par exemple en Europe de l'Est, comme la Russie ou la Bulgarie, qui avaient des liens historiques avec la France. La Chine commence en fait aussi à développer des communautés francophiles et nous avons des étudiants internationaux qui sont francophones. Et enfin, dans nos recherches avec Suzanne, nous avions eu des participants qui étaient arrivés d'abord au Québec, qui étaient passés par la francisation et ensuite donc avaient le français comme première langue officielle et ensuite on fait une deuxième migration ailleurs dans le pays. Donc, il y a beaucoup de possibilités de francophiles.
Oui, ma question était surtout liée au fait, est-ce que ça complexifie encore davantage la cohésion sociale? Ibrahima veut parler, je pense.
Oui, parce que j'ai un témoignage très, très, très important pour ça. Je prends ici la communauté philippino. C'est une des plus grandes concentrations de Philippinos en dehors des Philippines. Et ces gens-là, ils ont compris le Canada. Et il y en a beaucoup parmi eux qui vont dans des écoles, soit d'immersion, dans des écoles françaises. Et à l'Université de Saint-Boniface, je vous assure qu'il y a il y a beaucoup d'étudiants qui continuent leurs études en français. Et l'année dernière, un des champions de la francophonie était un Philippino. Alors, c'est vous dire que même si les gens qui sont originaires de pays qui ne sont pas francophones, pour moi, c'est un exemple extraordinaire. Et actuellement, les Philippines représentent plus de 50 000. Ils sont beaucoup, même plus nombreux que les francophones de souche. Et eux, ils ont appris le système. Ils sont dans la santé, ils sont dans les gouvernements, ils sont partout parce qu'ils ont appris la deuxième langue. Ils l'ont valorisée. Ils parlent déjà leur Tagalog, là, ils parlent leur langue locale. Et pour moi, quand on parle de modèle, là, ça, c'est un modèle à suivre. Sur le plan économique, sur le plan culturel, ils sont extrêmement solidaires. Et il y a aussi des Égyptiens aussi, qui, même si l'Égypte a été arabe et colonisée aussi par... ils sont aussi anglophones et tout ça, mais il y a des Égyptiens aussi qui vont dans les écoles d'immersion et qui viennent chez nous, qui parlent le français. Peut-être qu'ils ont fait des lycées aussi, parce qu'il y a des lycées français en Égypte, ça aide aussi. Hein. Donc, c'est des exemples comme ça que je vois quotidiennement quand je vois mes étudiants philippinos travailler très fort, avoir de très, très bonnes notes en français. Je suis ravie de voir ça.
Merci. Judith, vous vouliez intervenir
Oui, allez-y. Oui, le défi ici, en milieu minoritaire en Nouvelle-Écosse, serait vraiment au niveau de l'entrée à l'école. Donc, c'est ces jeunes enfants qui ne parlent ni le français, qui ne parlent pas le français, qui sont inscrits dans des écoles de langue française. Donc là aussi, on revient à un manque de structure et d'intervenants pour encadrer cette nouvelle population qui entre à l'école. Et puis, imaginez-vous un enfant qui ne comprend pas la langue à l'école. C'est très difficile. Donc, voilà, je reviens vraiment à... Si on veut qu'il y ait cohésion et cohérence aussi avec le système et avec notre réalité, d'immigrants aujourd'hui, il faut qu'on se donne les moyens de mettre en place des structures adaptées à différents niveaux, au niveau scolaire.
Merci. Suzanne?
Moi, ce que j'aimerais ajouter aussi, c'est que je crois qu'il y a un manque de reconnaissance de la diversité francophone parmi les organismes anglophones. Et donc, c'est important qu'eux réfèrent leurs clients qui parlent français envers les organismes francophones. Le problème, c'est que les francophiles, eux aussi, ont le droit de se faire servir dans la langue officielle de leur choix. Et donc, pour plusieurs, c'est peut-être pas leur langue maternelle, mais quand même leur première langue officielle parlée. Mais si quelqu'un, comme Ibrahim a donné l'exemple de quelqu'un des Philippines, entre dans un organisme d'établissement à Vancouver, je pense pas que le conseiller va penser, je devrais demander à cette personne-là dans quelle langue est-ce qu'ils aimeraient se faire servir et de les envoyer vers les organismes francophones. Et donc, je crois que ça renforce un peu cette problématique d'invisibilité parce qu'on ne sait pas où retrouver. Où est-ce qu'on retrouve ces gens francophones qui aimeraient peut-être se joindre à la communauté, mais qui ne la connaissent pas et qui ne se font pas référer parce qu'on ne comprend pas qu'ils sont francophiles dans les organismes plutôt mainstream, disons.
Merci beaucoup à vous tous. Monsieur Allaire, c'est à vous.
Merci. Merci à tout le monde parce que ça réveille ou ça ramène plusieurs questions existentielles, tiens. C'est à peu près la meilleure façon de le dire. Je pense qu'un des éléments qui, à mon avis, n'a pas été suffisamment touché, on a parlé de possibilité de l'accueil, mais je parlais de communautés résistantes qui sont sur la défensive. Est-ce que, d'expérience personnelle, arrivé en Alberta, du Québec, de Montréal en particulier, en 1976 à la fin des années 70, la communauté albertaine de langue franco-albertaine est aussi accueillante que ça? Parce qu'elle est elle était sur la défensive et je me demande jusqu'à quel point ce niveau-là de résistance, en fait, ou plutôt de défense communautaire, jusqu'à quel point ça joue. J'imagine qu'au Nouveau-Brunswick, il est beaucoup moins fort. Il est moins fort à Ottawa. Il est certainement moins fort à Saint-Boniface. Ibrahim en a parlé. L'accueil est important, mais il y a quand même... Bon, je prendrai le cas du Québec, mais j'irai pas là. Dans des communautés qui sont en fait des résistantes ou des résilientes, mais qui sont par rapport à l'autre sur la défensive, qui ne se rappellent pas, par exemple, que les communautés, de toute façon, sont diverses depuis très, très longtemps. Voilà. Et jusqu'à quel point cette position de la communauté par rapport à sa survie joue sur l'accueil, puis on a parlé de communautés différentes d'un bout à l'autre du pays. Je pense que ça fait partie, là. Merci.
Merci de soulever cette question importante que nous avons d'ailleurs beaucoup, beaucoup travaillé avec Suzanne, mais je vais laisser nos panélistes réagir si vous voulez répondre. Je me demande, Kimberly, si la FCFA aurait quelque chose à dire sur ça.
Oui, c'est une question très importante que vous posez, un défi qui n'est pas facile à régler. À mon avis, la solution se trouve dans l'empuissancement ou l'empouvoirment des gens de ces communautés qui ont un désir de cohésion sociale. Donc, vous avez donné l'exemple de certaines communautés où il y a une certaine résistance, une certaine défense par rapport à soit les individus issus de la diversité ou les individus issus de l'immigration. Je pense qu'il faut essayer de décortiquer tout ça et de voir qui sont les acteurs de ces communautés qui, en fait, veulent que ça marche, veulent qu'il y ait justement des espaces physiques, virtuels, où on est capable d'apprendre à se connaître, de se découvrir, de développer cette humilité culturelle, de cheminer ensemble. Et je pense qu'il faut mettre ces gens de l'avant, leur accorder notre écoute, puis leur donner des ressources pour être capable de mettre en œuvre des initiatives.
Merci. Ibrahima, est-ce que vous vouliez répondre? Et puis Judith, je ne suis pas sûre si c'est une nouvelle main ou une ancienne main.
Merci Gracien d'avoir posé cette question-là. Effectivement, les gens qui venaient de l'extérieur souvent viennent dans des communautés qui ont été évidemment asservies, mais qui ont quand même subi disons des injustices. Donc le repli sur soi, moi je l'explique comme ça, permet à ces sociétés-là de pouvoir survivre, et qui fait que moi aujourd'hui, vraiment, j'arrive dans une société qui a défendu sa langue contre vents et marées, et donc qui me permet de m'intégrer dans un certain sens. Mais autant ce repli sur soi était salutaire, autant s'il continue, il peut être, comme je dis souvent, suicidaire. Et c'est pour cela que les communautés, il faut aussi leur donner le temps de pouvoir évoluer. Et c'est ce qui se passe actuellement. Ces communautés, disons, d'immigrants qui viennent d'ailleurs, qui viennent, que ce soit des minorités visibles, maintenant, ils ne sont plus, ils passent, si vous voulez. On les trouve dans les banques, on les trouve dans les hôpitaux, on les trouve dans les centres culturels. Et c'est ça qui est la normalisation. Ce n'est pas encore achevé, mais je pense que ça permet un peu de pouvoir arriver à normaliser la vie. Et je reviens sur l'école. Vous allez dans une école, vous trouvez des jeunes qui sont il y a 30 nationalités dans cette école-là, à côté de petits blancs, passez-moi l'expression. Ces jeunes blancs, ils ont une expérience que les grands-parents, les parents n'ont jamais vécue. Et pour moi, c'est là où je vois une sorte de révolution silencieuse qui est en train de se faire actuellement. Et on va mesurer l'impact de ça, de voir des jeunes qui connaissent le Gabon, le Sénégal, le Mali, l'Égypte, le Maroc. C'est ce qu'on retrouve actuellement dans les écoles. Donc la mentalité, on a semé la graine maintenant et elle va évoluer. Et c'est à nous, en tant que communauté, disons, solidaire, de faire en sorte que nous comprenons les uns les autres et nous aidons justement cette jeune génération, parce que ça va être leur monde de demain, de comprendre que le monde n'est pas monolithique. Et j'ai des tas d'exemples, mais je laisse le soin à d'autres de compléter. Mais c'est quelque chose que moi, je vis personnellement, que mes enfants vivent, que mes neveux vivent. Il y a des jeunes Canadiens, Manitobains, blancs, qui parlent le Wolof. Alors, vous comprenez un peu. C'est ça aussi la symbiose qu'il y a entre les communautés. Et les parents sont très ouverts à ça. Ils n'ont jamais vu un noir à côté d'eux. Maintenant, les noirs viennent passer la nuit chez eux, les enfants, je veux dire. Alors, c'est ça aussi. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le négliger, ça. Très important. Merci.
Merci beaucoup.
Oui.
Merci.
Réagir, oui. Monsieur Alain.